Aujourd'hui, nous recevons donc le professeur Pierre Carli. Pierre Carli est né le 8 février 1926 à Strasbourg. Il est docteur en médecine, professeur émérite à la faculté de médecine de Strasbourg, spécialiste de neurobiologie et plus particulièrement de neurobiologie des comportements socio-affectifs et de la neurobiologie de la vision. Les principales publications de Pierre Carli sont les ouvrages suivants « Neurobiologie des comportements d'agression » 1982, « L'homme agressif » 1987, et enfin « Le cerveau et la liberté » publié chez Odile Jacob en 1995. Pierre Carli, je vous laisse la parole.
Merci. Mesdames, messieurs, on m'a invité à parler ce matin du cerveau, des affects et des émotions. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous. De fait, il suffit d'évoquer les héros de Sophocle, de Racine et de Shakespeare, ou plus simplement de réfléchir à ce qui anime notre propre existence pour réaliser qu'à l'évidence, les affects et les émotions font partie intégrante des structures générales et essentielles de la réalité humaine comme éléments constitutifs, signifiants et motivants. Plus précisément, les processus affectifs participent très largement au rôle de médiation assumé par le cerveau dans le dialogue complexe que conduit l'être humain, dialogue qui s'incarne dans un corps, qui s'inscrit dans un contexte et qui est à la fois reflet et moteur d'une histoire individuelle. La vie humaine peut difficilement être appréhendée d'une façon englobante car elle se déroule à différents niveaux de réalité qui ne se laissent pas réduire les uns aux autres. En effet, l'être humain est à la fois un individu biologique, un acteur social et un sujet en quête de sens et de liberté intérieure. Ces trois facettes se déploient chacune dans un environnement différent. Elles se constituent chacune dans et par un ensemble d'interactions à la fois adaptées et adaptatives avec un environnement particulier, l'environnement matériel, le milieu social et un monde intérieur privé. L'être humain conduit ainsi un triple dialogue avec des environnements qu'il se construit et qu'il s'approprie. Et c'est dans ce triple dialogue, dont la médiation est assurée par un seul et même cerveau, que se forgent trois identités qui sont à la fois distinctes et interdépendantes. Une identité biologique, une identité psychosociale et une identité personnelle plus profonde. Cette tripartition est pertinente à bien des égards, car les trois dialogues visent des objectifs qui sont différents. Ils sont gouvernés par des normes qui ne sont pas de même origine. Ils sont confrontés à des contraintes qui ne sont pas de même nature, et ils requièrent donc chacun des facultés, des compétences, des performances particulières. Ils entretiennent des rapports différents avec le temps et avec la production du sens. Au sein du cerveau, ils correspondent schématiquement à des niveaux d'intégration et d'organisation distincts qui traitent de manière différenciée des informations qui leur sont propres. Bien évidemment, il y a des interactions complexes entre ces trois dialogues et entre les processus cérébraux qui les sous-tendent. L'unification et la cohérence sont assurées en particulier par les processus affectifs, car ces derniers interviennent dans la médiation de chacun des dialogues comme élément de signification et de médiation, de motivation. Et les systèmes neuronaux, qui en constituent le substrat matériel, sont distribués à travers les différents étages fonctionnels de l'entité dynamique qu'est le cerveau. S'ils ont en commun une qualité essentielle, sur laquelle on reviendra, les processus affectifs se laissent néanmoins distinguer sur la base de leur intensité et de leur durée. Il peut s'agir d'un simple signal qui vient s'intégrer de façon transitoire et sous la forme d'un attribut d'ordre affectif à une sensation extéroceptive ou interoceptive et qui lui confère ainsi une connotation affective. Il peut aussi y avoir induction d'un état affectif plus durable qui va colorer d'une façon plus globale la perception du monde extérieur comme celle du monde intérieur. En fonction de la signification innée ou acquise qu'il revêt pour l'individu, un objet ou un événement peut même mobiliser l'être tout entier dans l'ébranlement d'une émotion qui se manifeste par un comportement et par des modifications viscéromotrices et humorales qui lui sont propres. Quelle qu'en soit l'origine et la forme, chacun de ces processus s'accompagne d'une expérience subjective qui est universellement ressentie comme étant agréable, plaisante, gratifiante, ou au contraire, désagréable, déplaisante, frustrante. Cette qualité particulière de l'expérience vécue, qu'elle soit induite de l'extérieur, ou évoquée, ou imaginée, détermine l'une ou l'autre des deux attitudes fondamentales face à tout objet ou événement. Une attitude d'appétence et d'approche à l'évers, ou au contraire, une attitude d'aversion et de retrait, éviter, fuir. Dans tous les cas, la fonction du processus affectif est de signaler, de signifier quelque chose, d'orienter l'attention et l'action, et d'optimiser ainsi les chances qu'a l'individu de s'engager dans des interactions qui soient adaptées et adaptatives dans le sens de la satisfaction de ses besoins et ou de la réalisation de ses désirs. Nous allons voir maintenant, l'un après l'autre, les trois thèmes qui correspondent au triple dialogue dont il vient d'être question. 1. Satisfaction des besoins biologiques élémentaires. 2. Socialisation et interaction sociale. 3. Constitution et animation d'une vie intérieure. Donc tout d'abord, satisfaction des besoins biologiques élémentaires. Pour l'individu biologique, il est vital qu'il soit à même de préserver son intégrité physique et ses structures internes et de maintenir la constance de son milieu intérieur qui est nécessaire au fonctionnement optimal de la communauté cellulaire qui le constitue. Les échanges de matière, d'énergie et d'information avec le milieu de vie sont assurés par des comportements qui s'inscrivent dans le moment présent pour répondre à la signification biologique première du stimulus ou de la situation qu'il s'agit de rechercher, au contraire de fuir. À ce niveau de réalité, le sens n'est encore que l'expression dans les schémas d'action de l'individu biologique d'un programme qui est commun à tous les individus de l'espèce. Dans les conditions normales, l'individu biologique fonctionne d'une façon stable, cohérente et efficace grâce à la sagesse innée de l'organisme, pour reprendre une expression de Walter Cannon, 1932, conformément aux lois de la nature qui sont universelles. Il s'agit de lois descriptives qui rendent compte d'une organisation biologique qui nous est commune à tous. Au sein du cerveau, les comportements qui assurent la satisfaction des besoins biologiques élémentaires de l'individu mettent en jeu pour l'essentiel un niveau fonctionnel mésencéphalo-diencéphalique, la partie haute du tronc cérébral. C'est à ce même niveau anatomo-fonctionnel, phylogénétiquement le plus ancien du cerveau des mammifères, que deux systèmes neuronaux jouent un rôle essentiel dans la genèse des attributs d'ordre affectif qui viennent s'intégrer aux données objectives de l'information sensorielle. Tout d'abord, un système latéral qui s'étend de la région ventrale du mésencéphale, donc partie haute du tronc cérébral, à travers l'aire hypothalamique latérale vers un ensemble de structures du cerveau antérieur, en particulier le septum, l'amygdale, le cortex préfrontal, des structures sur lesquelles nous reviendrons. Ce système latéral peut être considéré, d'un point de vue fonctionnel, comme un système d'appétence, de plaisir, de récompense et de renforcement positif. L'activation de ce système latéral par l'application d'une stimulation électrique produit des effets appétitifs que l'animal recherche et qui renforcent positivement tout comportement qui leur donne naissance. On observe en effet que si l'on implante une électrode dans l'aire hypothalamique latérale, et qu'on donne à l'animal la possibilité de s'y stimuler lui-même. Par exemple, pour le rat, en appuyant sur un levier ou en introduisant le museau dans un orifice ménagé dans l'une des parois de la cage, cet animal pratique l'autostimulation à en perdre haleine. Si l'on associe cette stimulation à la présentation d'une saveur jusque-là inconnue, le rat développe à son égard une préférence marquée. Chez le macaque, la téléstimulation du système de récompense atténue les réactions de peur provoquées par un serpent et elle accentue nettement le degré de dominance manifesté à l'égard d'un congénère. On peut développer une agressivité marquée chez un rat qui ne la manifeste nullement de façon spontanée dès lors qu'on récompense toute velléité d'agression à l'égard d'un congénère en associant régulièrement une stimulation électrique du système d'appétence à cette ébauche de comportement agressif. On aura rendu l'agression payante. Lorsqu'on provoque une douleur chronique chez le rat, on constate que, par rapport à la période témoin, l'animal augmente spontanément le nombre et la durée totale des appuis sur le levier d'autostimulation. On peut penser que la sensation de bien-être produite par l'autostimulation atténue le caractère aversif de la douleur chronique. De nombreuses données font clairement apparaître que la mise en jeu, par voie naturelle ou expérimentale, de ce système neuronal modifie la façon dont un individu perçoit un stimulus ou une situation et, partant, l'attitude qu'il manifeste à son égard, dans le sens de l'appétence et de l'approche à l'évers. Les recherches d'ordre neurochimique ont montré que la dopamine et les morphines endogènes jouent un rôle important dans les neurotransmissions au sein du système d'appétence et de récompense. Et l'animal s'administre lui-même une substance morphinique au niveau de différentes régions de ce système. S'il peut choisir entre deux sites d'injection, il préfère s'injecter de la morphine dans la région ventrale du mésencéphale plutôt que dans l'amygdale, ce qui semble indiquer que les états affectifs ainsi induits sont quantitativement et ou qualitativement différents. De plus, des manipulations pharmacologiques de ce système permettent de réaliser une dissociation expérimentale entre, d'une part, l'appréciation immédiate du caractère plaisant d'un stimulus et, d'autre part, l'appétence qui porte l'individu vers ce qui peut satisfaire un besoin. En situation plus médiane, puisque j'ai parlé d'un système latéral dans le cerveau, en situation plus médiane, un système périventriculaire comprenant la région dorsale de la substance grise périaqueducale et l'hypothalamus médian, ce système joue le rôle d'un système neuronal d'aversion, de punition et de renforcement négatif. Si on l'active par une stimulation électrique ou par une micro-injection locale d'un acide aminé excitateur, on produit chez l'animal un état affectif de nature aversive qui s'exprime par un comportement de fuite ou de défense. Il y a bien production d'une expérience nettement déplaisante, car l'animal apprend rapidement tout comportement qui lui permet d'interrompre la stimulation électrique qu'on lui applique. De plus, on peut renforcer ou au contraire atténuer ce comportement d'auto-interruption en associant à la stimulation électrique l'administration d'une substance qui a un effet anxiogène ou au contraire un effet anxiolytique. Si, dans le cas de deux stimulations combinées, les effets aversifs induits s'additionnent dans leur expression comportementale quantifiable, les signaux ainsi générés ne sont pas qualitativement indifférenciés. Bien au contraire, le rat apprend rapidement à faire la discrimination entre l'une et l'autre de ces stimulations, car il les interrompt en utilisant pour chacune le levier approprié. De nombreuses données expérimentales montrent que l'état affectif induit par l'activation du système neuronal d'aversion modifie profondément le traitement des informations provenant de l'environnement et partant l'attitude de l'animal à leur égard. Chez l'homme, la stimulation électrique de la substance grise périaqueducale induit également des états affectifs de nature aversive, en particulier des sensations de peur. Le niveau d'activité et le degré de réactivité du système périventriculaire d'aversion sont contrôlés par des afférences modératrices qui agissent par la libération de divers neurotransmetteurs, le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, les morphines endogènes, la sérotonine. En bloquant expérimentalement la mise en jeu de l'influence modératrice GABAergique, on provoque des réactions de fuite et une attitude générale de retrait. Si l'on associe ce blocage à la présence de l'animal dans une certaine région de l'espace, l'animal va très rapidement éviter de pénétrer dans cette région-là. De façon plus générale, on peut modifier à volonté le traitement des informations sensorielles et l'attitude de l'animal à leur égard, dans le sens de l'appétence et de l'approche, ou au contraire de l'aversion et du retrait, en manipulant ces neurotransmissions modératrices et partant la nature et l'intensité des attributs et états affectifs qui sont générés. Puisque la mise en jeu de ces réseaux neuronaux joue un rôle aussi important dans l'induction des attitudes d'appétence ou d'aversion et dans la genèse des comportements qui en sont l'expression, il importe de souligner que ces déterminations, loin d'être unidirectionnelles du cerveau vers le comportement, ces déterminations sont circulaires. En effet, les interactions avec l'environnement, du fait du comportement présenté, ces interactions avec l'environnement retentissent en retour sur le fonctionnement de ces réseaux, ce qui se laisse illustrer brièvement par quelques exemples. C'est ainsi que l'exposition à diverses situations stressantes a pour effet de réduire chez le rat la sensibilité des récepteurs de la dopamine au sein du noyau accumbens, relais important du système de récompense. Et cette modification d'ordre neurochimique s'accompagne d'une réduction de la sensibilité de l'animal à l'effet de récompense et de renforcement positif de diverses stimulations. Le fonctionnement des systèmes à morphines endogènes, qui sont profondément impliqués dans la genèse des émotions sociales et de l'attachement interindividuel. Ce fonctionnement est affecté par le stress maternel au cours de la vie fœtale et par une privation maternelle répétée pendant la période néonatale. Des mécanismes qui font intervenir la sérotonine et qui participent au contrôle des états affectifs sont altérés eux aussi par diverses conditions de l'environnement. Socialisation et interaction sociale. C'est l'actualisation de potentialités biologiques inhérentes au génome humain qui fournit les fondements nécessaires au développement des diverses compétences sociales et qui permet ainsi que l'acteur social soit d'abord, à bien des égards, l'acteur de sa propre socialisation. Les premières communications entre l'enfant et sa mère correspondent à des échanges d'ordre affectif, à l'expression intentionnelle d'un état affectif et à la lecture active de l'état affectif tel qu'il est exprimé par l'autre. Ces interactions se poursuivent tout en s'affinant, et c'est en particulier par ce processus d'apprentissage émotionnel que se constituent les structures élémentaires de la cognition sociale de l'individu et le style général de ses relations interpersonnelles. Le jeune enfant acquiert rapidement une bonne compréhension des sentiments d'autrui et cette capacité joue un rôle important dans le développement de nombre de conduite sociale. Les affects et les émotions contribuent largement à la construction en commun de la signification d'un ensemble d'expériences vécues, ainsi qu'à la constitution de bien des attentes partagées. et une maturation déficiente dans ce domaine peut conduire à l'isolement autistique. Tout au long de son devenir, l'acteur social élabore et défend une identité psychosociale en même temps qu'il développe et qu'il s'efforce de préserver un équilibre relationnel et affectif. Il ne s'agit plus, comme dans l'homéostasie du milieu intérieur, de corriger des écarts par rapport à des points de consigne innés. Nombreuses sont ici les références faites au passé, à l'histoire individuelle, plus précisément aux conventions et aux normes intériorisées, aux conditionnements subis, aux expériences relationnelles précédemment vécues. Les lois qui s'imposent à l'acteur social sont celles de la vie en société, lois normatives qui correspondent à un lieu donné et à un moment donné d'une histoire culturelle collective. Dans l'évaluation des incitations, comme dans celle de la pertinence des réponses qui y sont apportées, les processus d'ordre affectif jouent un rôle médiateur essentiel. Grâce à l'interprétation et à la symbolisation du vécu social, l'histoire individuelle crée du sens qui lui est propre et qui n'est plus préprogrammé. Mais dans la mesure où le mouvement de l'existence s'écoule au gré des conventions et des modes qui prévalent, ce sens peut rester très largement implicite puisqu'il ne fait pas l'objet d'une quête et d'une réflexion délibérée. Étant donné le rôle important joué par les processus d'ordre mnésique et d'ordre affectif, qui sont à la fois le produit et le moteur des échanges avec le milieu social, il n'est guère surprenant que des structures cérébrales telles que la formation hippocampique et le complexe nucléaire amygdalien, interconnectées l'une avec l'autre au sein du lobe temporal, soient profondément impliquées dans le devenir et le fonctionnement de l'acteur social. Il faut signaler d'emblée l'existence d'une spécialisation fonctionnelle de chacune de ces structures qui interagissent étroitement. Alors que la formation hippocampique prend une part essentielle dans la mémorisation des informations concrètes d'ordre spatial, temporel, configurationnel et contextuel, l'amygdale intervient tout particulièrement dans la mémoire émotionnelle. C'est ainsi que l'amygdale est mise en jeu dans l'acquisition et l'expression d'une peur conditionnée. Dans la genèse de l'anxiété liée à l'anticipation d'événements déplaisants, dans la détection d'un changement qui affecte la grandeur d'une récompense et dans la reconnaissance des émotions telles qu'elles se manifestent dans des expressions faciales. Des investigations d'ordre électrophysiologique ont montré que certains neurones amygdaliens répondent d'une manière sélective à un stimulus dès lors qu'il aura été associé au préalable avec un renforcement positif, par exemple la nourriture, ou négatif, par exemple un choc électrique douloureux. Et l'activité de ces neurones peut être manipulée, modulée par des changements affectant la valence affective de ce stimulus. D'autre part, les lésions bilatérales de l'amygdale perturbent profondément la constitution et l'expression dans le comportement de l'association d'une récompense ou d'un événement aversif à un stimulus. De plus, ces lésions ont pour effet de réduire la sensibilité de l'animal à tout changement survenant dans la récompense qu'un stimulus laisse anticiper, et il aura donc tendance à persévérer dans un comportement devenu inadéquat. De façon générale, l'amygdale est profondément impliquée non seulement dans l'acquisition et la reconnaissance de la signification affective d'un objet ou d'une situation, mais également dans l'évolution de cette signification sous l'influence structurante de l'expérience, en réalisant l'algèbre interne des connotations plaisantes et déplaisantes des conséquences qui découlent d'un comportement. On conçoit donc aisément qu'en interaction avec un ensemble de structures cérébrales, l'amygdale joue un rôle important dans l'adaptation du comportement au vécu de l'individu, dans l'expression des nuances individuelles du comportement qui reflètent les conditionnements forgés par ce même vécu. On comprend également pourquoi des lésions bilatérales de l'amygdale perturbent tout spécialement les conduites socio-affectives, puisque l'individu ne saurait adopter des comportements appropriés qu'en se référant à son propre vécu au sein du groupe. Si de semblables lésions sont pratiquées chez des singes vivant en liberté, les animaux ainsi opérés deviennent incapables de reconnaître la signification des signaux sociaux émanant de leurs congénères. De ce fait, ils sont incapables de se réinsérer dans leur groupe ou dans un groupe voisin. Ils s'isolent et ne survivent pas longtemps. Chez des singes femelles, l'amygdalectomie bilatérale perturbe gravement le comportement maternel et les jeunes meurent s'ils ne sont pas séparés de leur mère et élevés de façon artificielle. Au cours de l'ontogenèse, ces mêmes structures du lobe temporal jouent un rôle important dans le développement des comportements sociaux. Chez le macaque, des lésions précoces de l'amygdale provoquent des troubles du comportement qui apparaissent progressivement et qui s'accentuent avec l'âge. Les animaux sont hyperactifs, ils persistent dans des comportements devenus inappropriés et ils s'avèrent incapables de s'imposer dans le groupe. Si des lésions de l'ensemble amygdale-hippocampe sont pratiquées chez le singe nouveau-né, on observe également par la suite, en plus des déficits d'ordre mnésique, une perturbation profonde des conduites socio-affectives avec un extrême appauvrissement des interactions sociales et un comportement assez compulsif et rigide. On peut ajouter, mais avec toute la prudence qui s'impose, qu'une maturation déficiente de neurones amygdaliens hippocampiques a été décelée au sein du cerveau d'enfants atteints d'autisme et qu'un dysfonctionnement de certains récepteurs de ces mêmes neurones est susceptible de contribuer à la genèse des difficultés de la communication sociale et à celle de l'attitude de retrait social caractéristique de l'autisme. Constitution et animation d'une vie intérieure. Par-delà les impératifs proprement biologiques du moment, Par-delà les multiples sollicitations et pressions sociales qui tirent leur pleine signification de l'histoire passée de l'individu, le sujet en quête de sens peut prendre du recul grâce au dialogue qu'il conduit avec lui-même, grâce au travail qu'il fait sur lui-même. Des représentations internes activement élaborées et constamment retravaillées, grâce au maniement maîtrisé du langage, viennent ainsi s'intercaler entre la réalité du monde et le sujet qui l'appréhende. Du fait des interactions complexes, d'une élaboration cognitive de plus en plus poussée, avec une dynamique affective qui s'affine et qui se diversifie, ces représentations sont des structures à la fois évolutives et vectorisées, entre guillemets. Face au monde réel actuel, ces représentations génèrent des motivations au double sens de motif d'action et de moteur de l'action, et elle donne à l'action tout son sens, au double sens de direction et de signification. Soucieux de se réaliser, d'actualiser ses potentialités, le sujet se projette dans l'avenir et il élabore un projet de vie de façon consciente et délibérée. À mesure qu'il développe une intériorité autonome, mais largement ouverte sur le monde et sur l'autre, il s'efforce de donner sens et cohérence à sa vie. De plus, il peut avoir le souci et la joie de participer aux entreprises de la créativité humaine. Du fait de la prise en charge des affects et des émotions brutes par le discours intérieur et du développement à la fois de la réflexion sur le passé et de la projection dans l'avenir, des sentiments et des émotions beaucoup plus complexes se créent tout au long de l'ontogenèse à partir d'états affectifs élémentaires tels que la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et le plaisir. Au fur et à mesure que le soi se construit et qu'il évolue, il donne lieu à des retours sur le passé, avec des sentiments de regret, de culpabilité, de fierté et d'autres, à des projections dans l'avenir, avec des sentiments d'espoir confiant ou au contraire d'appréhension, et à des confrontations avec d'autres soi en devenir, avec des sentiments d'envie, de joie prise au malheur d'autrui, de pitié, de compassion et d'autres. Dans la genèse de ces sentiments complexes, l'élaboration intrasubjective et les échanges intersubjectifs se nourrissent et s'enrichissent mutuellement. Tant l'évolution phylogénique du cerveau que sa maturation proprement biologique chez l'individu culmine dans la connectivité et la plasticité toute particulière du cortex préfrontal. Ici, tout en avant, la partie la plus antérieure du cortex cérébral. De nombreuses données obtenues chez l'homme et chez l'animal conduisent à penser que ce cortex, en interaction étroite avec tout un ensemble de structures corticales et sous-corticales, ce cortex préfrontal apporte une contribution essentielle aux intégrations les plus poussées, non seulement entre diverses fonctions et opérations cognitives, mais également entre ces dernières et des processus d'ordre affectif et d'ordre conatif. La conation, c'est l'impulsion donnée par l'exercice de notre volonté. Cette région du cerveau joue un rôle important dans la planification, le contrôle et l'adaptation des actes intentionnels. Elle reçoit des signaux susceptibles d'influencer l'élaboration des prédictions et le choix d'une stratégie qui maximise l'effet de récompense. Des lésions du cortex préfrontal provoquent une perte de la spontanéité, une perte de la motivation endogène, de la projection dans l'avenir, en même temps qu'une certaine perte d'autonomie du sujet à l'égard de son milieu de vie. Les expériences de lésions localisées, ainsi que l'enregistrement d'activités neuronales unitaires, ont montré que certaines régions du cortex préfrontal, le cortex orbitofrontal et le cortex cingulaire antérieur, régions interconnectées avec l'amygdale dont il a été question tout à l'heure, ces régions sont impliquées dans le traitement des informations de nature affective, dans le jeu de la mémoire de travail et dans la détection des changements qui affectent toute signification affective. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que des lésions du cortex orbitofrontal provoquent chez le singe des altérations profondes de la personnalité, entre guillemets ou pas entre guillemets, altérations profondes de la personnalité et du comportement social. Perception déficiente des émotions exprimées par les autres, appauvrissement des mimiques spontanées, tendance à l'isolement social. Chez des patients porteurs des lésions du cortex préfrontal ou des noyaux gris de la base qui reçoivent des projections du cortex préfrontal et de l'amygdale, on observe également une indifférence affective, une perte de l'élan vital et une attitude de retrait social. Ces lésions perturbent profondément la reconnaissance et l'interprétation des signes sociaux et, partant, l'adaptation du comportement à des situations sociales diverses et changeantes. Chez le sujet normal, l'imagerie cérébrale met en évidence une nette activation du cortex cingulaire antérieur lors d'un épisode de tristesse ou de joie, ou encore lorsque le sujet observe des expressions faciales chargées d'émotions positives ou négatives. Quelques remarques plus générales pour conclure. Il importe de souligner à la fois la réalité autonome, même si cette autonomie est bien évidemment relative. La réalité autonome et l'importance vitale des attributs, états et processus d'ordre affectif. Les affects et les émotions ne se laissent d'aucune façon résorber, ni comme simple épiphénomène, ni comme processus induit en parallèle dans les fonctions et opérations proprement cognitives. L'étude du fonctionnement cérébral montre clairement qu'un signal ou un état doué d'une valence affective spécifique peut être généré par l'activation, par voie électrique ou chimique, de l'un ou de l'autre de deux systèmes neuronaux anatomiquement et fonctionnellement distinctes. Comme ces deux systèmes se recouvrent en partie dans une région de l'hypothalamus, on peut, en stimulant électriquement au niveau de cette région, on peut induire simultanément des effets appétitifs et des effets aversifs. Mais on constate alors que la fréquence de décharge de certains neurones est étroitement corrélée avec la vigueur des réponses d'approche, alors que la fréquence d'autres neurones est étroitement corrélée avec la vigueur des réponses de fuite. La différenciation fonctionnelle et la ségrégation spatiale des deux systèmes se retrouvent jusqu'au niveau du cortex préfrontal. C'est ainsi que la stimulation électrique de différentes parties du cortex singulaire antérieur induit des émotions de nature différente. De plus, l'imagerie fonctionnelle du cerveau a permis de constater qu'un épisode de tristesse, ou au contraire de joie, affecte de façon distincte des régions différentes du cortex cérébral et que ces états affectifs ne correspondent pas simplement à des activations en sens opposé d'une même région du cortex. Le signal ou l'état affectif induit de façon naturelle ou expérimentale peut se combiner de façon immédiate ou par conditionnement avec l'information sensorielle, quel que soit le niveau où elle est traitée. Et ces processus peuvent être manipulés à volonté par des micro-injections locales de molécules neuroactives, micro-injections qui ne modifient guère les fonctions et opérations cognitives en tant que telles. C'est comme variables intermédiaires que les processus d'ordre affectif assurent une importante fonction de médiation entre la perception et l'action. Cette médiation bidirectionnelle confère une grande flexibilité au fonctionnement cérébral, ce qui permet au cerveau de planifier et d'organiser des interactions qui soient adaptées et adaptatives dans le triple dialogue que l'être humain conduit avec les environnements qui lui sont propres. Dans notre rapport au monde et à nous-mêmes, la dimension affective de la conscience joue un rôle essentiel, car elle anime, oriente et enrichit la pensée. Elle aide à fixer des priorités, à en changer et à faire des choix. Cette façon de voir les choses est en parfait accord avec celle des psychologues qui préconisent une conception fonctionnelle, dynamique et évolutive de la personnalité, avec une cohérence qui est elle-même réalisée de façon dynamique et dialectique et qui évolue dans le temps. Les intégrations, coordinations et régulations que cela implique au sein du cerveau sont assurées en particulier par des systèmes neuronaux à fonction dite permissive, facilitante, tels que le système mésocortico-limbique qui fonctionne avec des transmissions dopaminergiques. Ce n'est pas méconnaître le grand intérêt des neurosciences cognitives que de plaider en faveur du développement hautement souhaitable d'une neuroscience affective. Cela s'impose d'autant plus que la dimension affective des processus mentaux prend naissance, s'élabore et se déploie au sein même du cerveau sans aucune correspondance dans le monde physique extérieur, alors que la structuration des processus cognitifs se fait en interaction avec des structures homologues de ce même monde extérieur. C'est dire qu'on ne saurait ignorer les données fournies par la neuroscience affective si l'on veut conduire une réflexion critique sur la nature et la fonction des processus d'ordre affectif, processus sans lesquels l'existence humaine se trouverait amputée de l'une de ses dimensions majeures. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre Carli. Merci beaucoup. Et maintenant, place au débat. Les personnes qui veulent poser des questions, n'hésitent pas à lever la main.
Là, je voudrais faire une remarque préliminaire. Comme je dis habituellement, il ne faudrait pas vieillir, mais nous y sommes tous condamnés, et moi le premier, si je puis dire, et ce vieillissement entraîne certains handicaps, et parmi mes handicaps, il y a celui que je n'entends plus très bien. Alors, je mets des audioprothèses, mais même avec elles, je risque de ne pas comprendre la question, mais cette question me sera répétée si je ne l'entends pas.
Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour. C'est une question qui peut paraître assez éloignée du sujet.
Donc, je vous remercie de bien articuler, de parler bien fort.
D'accord. C'est une question qui peut paraître assez éloignée du sujet. En fait, dans beaucoup de sciences qui touchent aux études du comportement humain, on utilise des probabilités. Et je voudrais savoir si, par exemple, les probabilités, c'est quelque chose qui touche à l'étude de masse au niveau du comportement humain. Et dans le monde, par exemple, de la banque et de l'assurance, on utilise plutôt des approches plus ciblées comme le scoring. Et je voudrais savoir s'il est possible d'élaborer d'autres outils que les probabilités en fonction donc de l'étude des affects et des émotions pour arriver à trouver un outil qui soit plus précis finalement que les probabilités pour l'étude du comportement humain.
Bon, je vois ce que vous voulez dire. Attendez, je vais de nouveau l'enlever, je la remettrai pour la question. Bon. Vous avez dit que votre question est quelque peu, peut-être, hors sujet. Ma réponse sera peut-être un tout petit peu hors question, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais en réalité, une première question qui taraude le neurobiologiste des comportements tout au long de sa vie, c'est la question de savoir ce qu'on peut raisonnablement extrapoler, transposer des recherches faites sur l'animal à la compréhension du comportement humain et de ses déterminations. Alors, je répondrai là brièvement de façon indirecte et en prenant mon cas personnel. Ce qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre les déterminations, les fondements, et disons les fondements biologiques, de ma propre personnalité, de mes propres attitudes, de mes propres comportements. Donc, si j'avais estimé, dans le cheminement de ma démarche scientifique, si j'avais estimé que les recherches qu'avec mes collaborateurs, nous avons effectué sur le rat, que ces recherches ne m'apprendraient jamais rien sur moi-même, j'aurais laissé tomber très vite. Ce qui veut dire que j'ai toujours été persuadé, je le suis encore aujourd'hui, que ces recherches faites sur l'animal, avec toute la prudence qui s'impose, peuvent m'apprendre beaucoup sur moi-même. Mais alors, pour revenir aux déterminations probabilistes, il est clair que dans l'étude du comportement animal, comme dans celui du comportement humain, nous mettons en évidence presque toujours des corrélations. Et il faut toujours être extrêmement prudent, vous le savez comme moi, avant de passer d'une corrélation à l'affirmation de l'existence d'une relation de causalité. Alors, vous avez un ensemble de corrélations. Alors, pour être plus précis, bon, mon équipe a travaillé pendant 30 ans sur la neurobiologie des comportements d'agression. Je suis reconnu comme un spécialiste de l'agression. Bon. Alors, mais je crois pouvoir dire qu'en ce qui me concerne personnellement, je suis très peu agressif. Enfin, bon. Alors, j'ai toujours, avant de commencer à exposer les résultats des différentes expériences, j'ai toujours dit à quoi nous visons, à quoi tendent nos expériences. Et j'ai toujours dit, nous faisons l'inventaire et l'analyse de tous les facteurs que nous pouvons appréhender, bien sûr, de tous les facteurs qui contribuent à déterminer la probabilité qu'un individu donné, confronté à une situation donnée, utilise une agression en guise de stratégie comportementale, en guise de moyen d'expression et d'action. Donc, je dis bien, un ensemble de facteurs qui contribuent à déterminer la probabilité, qu'il augmente ou qu'il la diminue, bon, la probabilité que, confronté à une situation donnée, un individu donné utilise une agression verbale, voire physique, en guise de moyen d'expression ou d'action. Donc là, ce sont toujours des déterminations probabilistes. Bon, lorsque les expériences s'accumulent, je peux parler effectivement d'une relation de causalité. Je prends là simplement un exemple, chez le rat, n'est-ce pas ? Nous avons, en réalisant différentes expériences, qui soit élèvent, soit abaissent, le niveau individuel de réactivité émotionnelle. Nous avons constaté qu'il y avait une corrélation étroite, et tellement étroite qu'on peut parler de relation de causalité, parmi d'autres facteurs, entre le niveau de réactivité émotionnelle et la probabilité que l'animal, dans telle ou telle situation, agresse et éventuellement tue. N'est-ce pas ? Donc, niveau de réactivité émotionnelle, vous savez que chez nous, on dit aussi que l'un est soupe au lait, alors que l'autre est d'un calme olympien. Donc, nous n'avons pas toutes et tous le même niveau de réactivité émotionnelle, et ceci joue. Et chez l'animal, c'est très net. L'animal, on ne lui a pas appris. Enfin, moi, je n'ai jamais essayé de lui apprendre à maîtriser la genèse et l'expression de ses émotions. Donc là, on voit très bien comment les choses se présentent.
Merci beaucoup. Au milieu, oui. Merci. Attendez, je vous prie. Oui, merci.
Alors bon, ma question consistait...
Donc vous parlez bien fort.
D'accord. Donc la portée de cette recherche au niveau de la neuropsychologie affective, En quoi ces résultats peuvent-ils investis dans l'éducation, puisqu'on a vu que l'affectif entrait vraiment de manière majeure dans l'élaboration de l'individu. Et en quoi est-ce qu'il y a des programmes de recherche qui seraient, au niveau de l'éducation, qui seraient associés à ces recherches au niveau affectif ? Parce qu'il me semble que l'école ou... l'éducation, on va dire, publique, s'intéresse essentiellement à la cognition et à l'élaboration des savoirs, et à, etc. Et est-ce que ça pourrait faire partie, vu l'importance que ça a dans la psyché, est-ce que ça pourrait faire partie de l'éducation de l'enfant par des structures ?
Bon, je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation. Par contre, je suis personnellement convaincu, mais les convictions, c'est une chose, les certitudes ou quasi-certitudes que nous pouvons avoir, c'en est une autre. Mais j'ai la conviction profonde que la maturation affective de l'enfant et la poursuite de la maturation affective chez l'adolescent est quelque chose de tout à fait essentiel, sûrement pour le développement de sa relation à l'autre, bon, mais également dans le développement de sa motivation à apprendre un certain nombre de choses qui lui permettront de mieux saisir son propre être, de mieux saisir affectivement sa relation au monde, sa relation à l'autre. Donc, je pense qu'on devrait plus parler qu'on ne le fait de tout ce qui facilite la maturation affective. Puisque j'ai parlé, bon, mais je ne vais pas répondre trop longtemps à une question, surtout si ça dépasse la question, mais comme je me suis intéressé au comportement agressif, non pas seulement chez le rat, mais également chez l'homme, je peux vous dire que les études longitudinales qui ont été faites par des collègues psychologues, et je les connais personnellement, en Finlande, en Norvège et deux aux États-Unis, où les collègues ont suivi les mêmes individus pendant 20 ans, de 5 ans jusqu'à 25 ans. Ils les ont vus à 5 ans, 8 ans, 11 ans, etc. Bon. Et je ne peux pas vous dire en détail maintenant tout ce qu'ils ont essayé de voir. Mais ils ont défini deux types de personnalités, personnalité agressive, personnalité non agressive. Personnalité agressive définie de façon purement, je dirais, opérationnelle, à savoir que ce sont des sujets qui utilisent facilement et fréquemment une conduite agressive dans certaines situations. Les autres utilisent moins facilement, moins fréquemment une agression dans les mêmes situations. Et alors, bien évidemment, ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'origine du développement de cette personnalité agressive. Ils ont regardé s'il y avait un chromosome particulier. Vous savez qu'à partir de 65, pendant quelque temps, on a parlé du chromosome du crime, n'est-ce pas ? Ou s'il y avait un gène particulier. Il y a des collègues biologistes qui proclament année après année avoir découvert le gène du crime, le gène de l'agressivité. Bon. Eh bien, ils n'ont rien trouvé au plan génétique qui permette de distinguer les deux groupes. Est-ce que les conditions socio-économiques jouent un rôle primordial ? Non, pas non plus. Alors, tous arrivent à la même conclusion. Ce qui joue le rôle fondamental, c'est l'attitude parentale au cours des premières années de la vie. Attitude parentale qualifiée de négative, bon, ils disent negative attitude, négative, à savoir absence de tendresse, absence de chaleur humaine, voire même hostilité à l'égard de l'enfant, et d'autre part, attitude laxiste, pas de discipline ou discipline incohérente, et en particulier, les parents ne s'efforcent jamais d'apprendre à l'enfant à contrôler la genèse de ses émotions et à exprimer ses émotions par des agressions. Ça, ça apparaît très nettement. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, mais la maturation affective est très importante. C'est elle qui fait, je l'ai dit à un moment donné, qui conditionne avec d'autres facteurs le style général des relations interpersonnelles, l'attitude de l'enfant et de l'adolescent, qui sera une attitude fondamentalement chaleureuse, ouverte, confiante, ou au contraire, fermée, repliée sur soi-même, méfiante, avec, j'allais dire, les corrélats comportementaux qui vont de pair.
Merci beaucoup. Une question à droite.
Je n'y suis pour rien.
Peux-vous lever, s'il vous plaît, et parler bien fort.
Je suis là.
Voilà. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'étudier la part de la télévision, du cinéma, sur l'apprentissage du comportement. Chez l'enfant, très jeune, lorsque la télévision ou le cinéma peut donner naissance à des interprétations de comportements affectifs assimilables à ceux des parents, est-ce que vous avez des études à ce sujet ?
Bon, tout d'abord, en ce qui me concerne personnellement, étant donné que tout le temps où j'ai dirigé mon laboratoire, nous avons travaillé sur l'animal. Donc, en travaillant sur l'animal, on ne s'est évidemment pas intéressé à la question de savoir quelles sont les répercussions de la télévision sur le développement affectif de l'enfant et son comportement. Mais là aussi, j'ai beaucoup lu et je peux dire que, et je continue de lire beaucoup, je fais encore une parenthèse, non pas pour vous inviter à venir, mais tout de même vous dire que j'organise à la fin de ce mois, enfin, sous l'égide de la ville de Strasbourg, un colloque de 3 jours au Palais des Congrès sur le thème « Paix civile et lien social, regard croisé sur les violences urbaines ». Alors, inutile de dire que ça, je ne l'ai pas étudié chez le RAS, n'est-ce pas ? Bon. Mais les études... Bon, c'est très controversé. Le retentissement de la télévision sur le comportement de l'enfant... c'est controversé, mais je dirais que dans la majorité des cas, il y a en particulier une étude tout à fait récente qui a été faite dans 7 pays, la France n'y est pas, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Pologne, il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a le Japon, eh bien ce sont des psychologues, des spécialistes de psychologie sociale dans ces 7 pays qui ont analysé pendant des années les répercussions de la violence à la télévision sur le comportement de l'enfant, eh bien, les conclusions là sont très claires. La violence à la télévision est responsable, d'une part, de la violence que présente l'enfant, l'adolescent et l'adulte lorsqu'il sera devenu adulte.
Merci. Bon. Alors, Madame, levez-vous.
Donc, attendez, là, j'entends
un instant, je vous prie, un instant. Vous pouvez vous lever et parler bien fort, merci.
J'ai entendu parler des amygdales, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. En tout cas, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui ont subi l'ablation des amygdales dans leur toute petite enfance ?
Oui, oui, non. Attention, oui, oui. Non.
Oui, mais...
Le mot amygdale... Oui, attendez, non, là, il y a quelqu'un qui demande la parole
oui, oui.
Depuis le début.
Oui, oui, je l'ai
il
vu.
N'arrive pas à avoir le micro. Mais je vais tout de même répondre. Amygdale vient de amygdala, qui est une amande, ça a la forme d'une amande. Alors, il y a les amygdales ici, qu'on m'a aussi enlevé, d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, n'est-ce pas ? Et il y a, dans la profondeur du lobe temporal, dans le cerveau, une structure qui a la forme aussi d'une amande et qui est l'amygdale. Mais l'amygdale cérébrale n'a rien à voir avec l'amygdale ici. Mais à titre anecdotique, je vais tout de même vous dire que j'étais amené un jour à faire une conférence entière sur l'amygdale, parce que nous avons beaucoup travaillé sur l'amygdale cérébrale. Et à la fin de la conférence, il y a un confrère médecin qui était blanc comme neige, qui est venu me voir, et il me dit, « Mon cher confrère, je suis spécialiste ORL, n'est-ce pas ? Et dans ma vie professionnelle, j'ai enlevé des centaines, des milliers d'amygdales, et je n'ai jamais eu conscience du fait que ça puisse modifier aussi... Bon, alors, non. Non, il n'y a pas de quoi me féliciter. Je devais être un piètre pédagogue si le confrère ORL, à la fin, a pu penser un moment que l'amygdale dont je parlais était la sienne.
Monsieur, je vous remercie de vous lever. Et après, nous passons la parole à cette dame à droite.
J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. La première, c'est que les conceptions de bien et de mal, qui donc base de la morale et de l'éthique, si elles ont un substratum biologique très précis, qu'est-ce que devient le problème de la liberté ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, pour des raisons très compréhensibles, le scientifique étudie les différents comme les différentes parties du cerveau que vous avez évoquées, est-ce qu'on a une idée de la synthèse de, à la fois du système de récompense, système de punition, cortex préfrontal, etc. Autrement dit, est-ce qu'on a des vues synthétiques en dehors de vues analytiques?
Bon, pour répondre à la première question, je dirais que pour savoir quelles sont les réponses que le dénommé Pierre Carli donne à ces questions, il vous suffirait, mais c'est un effort que je ne vous demanderai pas de faire, de lire les deux livres que j'ai publiés, « L'homme agressif » et « Le cerveau et la liberté ». En effet, à partir du moment où je n'étais plus tellement engagé dans la recherche active et où l'on a un peu plus de temps pour penser, pour réfléchir vraiment à la fois sur sa démarche scientifique et sur le sens qu'elle peut avoir pour soi-même. Je me suis posé deux questions, parce que, bon, je peux le dire, je suis personnellement attaché aux valeurs de ce qu'il est convenu d'appeler l'humanisme chrétien. J'étais donc amené à me poser la question de savoir, un, si je... n'importe qui peut être amené à se poser les mêmes questions. Est-ce que je dispose du libre arbitre ou est-ce que ma liberté n'est qu'une belle illusion dont j'ai besoin pour vivre, mais une illusion tout de même? Et deuxièmement, est-ce que, comme le dit Konrad Lorenz et beaucoup d'autres, je suis de fait condamné au mal? Bon, je peux certes essayer d'en faire le moins possible, mais je ne... Bon, c'est une fatalité d'ordre biologique que d'agresser l'autre, et nous sommes condamnés à nous jeter les uns contre les autres. Bon, alors, le cerveau et la liberté, bon, il y a 400 pages, donc je ne vais pas, même pas les résumer. Je dirais simplement qu'il n'appartient pas à la science, avec S majuscule, et j'y suis très attaché, il n'appartient pas à la science ni de prouver que notre liberté existe, ni de prouver qu'elle n'existe pas. Ma liberté, je la vis, ma présence à moi-même, je la vis, et je n'attends pas de la science qu'elle me dise que ça n'existe pas. Alors, je dois tout de même ajouter ceci, c'est que nos connaissances à l'heure actuelle concernant le fonctionnement du cerveau. Ces connaissances, à l'heure actuelle, ne permettent à personne d'affirmer que nous ne disposons pas du libre arbitre. Étant entendu que notre liberté est singulièrement encadrée par tout un ensemble de déterminations biologiques et sociales. Mais de ces déterminations biologiques et sociales, le sujet peut émerger. Mais pour moi, la liberté n'est pas un donné. La liberté s'acquiert, se conquiert dans le mouvement même de la quête qui nous conduit à cette liberté. Je parle de la liberté intérieure. C'est celle-là qui m'intéresse. Les libertés formelles qu'on me consent, ben, je suis content évidemment qu'on me les consente, ça me permet de bouger, de faire grosso modo ce que j'ai envie de faire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ma liberté intérieure, la liberté de penser, la liberté de réfléchir sur moi-même, sur mon rapport au monde et à l'autre, n'est-ce pas? Or, la science, à l'heure actuelle, ne permet pas d'affirmer que cette liberté n'existe pas. Mais je dis souvent, j'aimerais revenir sur Terre dans 500 ans, je ne crois pas que je pourrais le faire, pour voir où en est la science à ce moment-là. Parce que j'ai l'honnêteté intellectuelle de dire, actuellement, personne ne peut affirmer que je n'ai pas cette liberté. Bon. Pour ce qui est alors du mal, j'en veux personnellement beaucoup, même si je ne suis pas spécialement agressif, à Konrad Lorenz. Je vais vous dire pourquoi. Konrad Lorenz parlait très bien notre langue, la comprenait très bien, et il a accepté la dérive suivante. lorsqu'il a publié son livre en 1966, le titre du livre, c'est « Das sogenannte Böse zu einer Naturgeschichte der Aggression ». En d'autres termes, ce qu'il est convenu d'appeler le mal, point, contribution à une histoire biologique de l'agression. Lorsque le livre a été publié par Flammarion, 3 ans plus tard, en 1969, en langue française, le titre est devenu « L'agression, point, une histoire naturelle du mal ». Il y a donc eu un glissement, et à mes yeux non innocent, d'une histoire naturelle de l'agression, histoire scientifiquement fondée, notion scientifiquement fondée, vers une histoire naturelle du mal, notion inférée à mes yeux de façon tout à fait abusive, mais qui vient conforter certaines idéologies, et en particulier celle du darwinisme social. Il n'y a pas, à mes yeux, il y a une histoire naturelle de l'agression. Je sais très bien que j'ai hérité de mes ancêtres, si je puis dire, dans l'histoire évolutive, la capacité d'agresser, voire de tuer l'autre. Bon, ceci, j'en dispose. Bon, mais je ne suis pas condamné par ma biologie, par mon animalité, que je ne récuse nullement, je ne suis pas fatalement condamné à agresser et éventuellement à détruire l'autre. Donc, histoire naturelle du mal, je ne suis pas d'accord. Et je ne comprends pas, ou si je voulais être méchant, je ne comprends que trop, pourquoi Konrad Lorenz a accepté ce glissement-là. Donc, dans l'homme agressif, je dirais également ceci, Odile Jacob, qui n'a pas modifié un mot du livre, par contre, m'a imposé le titre « L'homme agressif ». Moi, j'avais mis, comme je voulais mettre comme titre, « L'agressivité, deux points, fatalité ou responsabilité, point d'interrogation ». Elle m'a dit, oh mon cher, avec 3 mots aussi lourds de sens, ce livre ne se vendra jamais. Et à une réunion des 17 représentants régionaux des éditions du Seuil, elle a posé à ces 17 personnes la question de voter, soit pour mon titre, soit pour l'homme agressif. Les 17 sur 17 ont voté pour l'homme agressif, n'est-ce pas? Bon.
Merci.
Mais, bon. Quand une traduction anglaise a été publiée par Oxford University Press, j'ai demandé et obtenu que le titre soit « Animal and Human Aggression », donc « Agression chez l'animal et chez l'homme », parce que les connaissances que j'ai contribué à acquérir moi-même sont des connaissances sur l'agression chez l'animal et ce que j'ai mis, et il y en a beaucoup, sur les agressions, les violences humaines, c'est le fruit de lectures, de discussions, etc. Mais je pense être libre, avec, comme dit, une liberté encadrée. Et d'autre part, je suis persuadé que je ne suis pas condamné au mal, ce qui ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas, de temps en temps, d'en faire un peu.
Merci. Deux dernières questions, une à droite, madame, puis après à gauche, en haut.
Par rapport à l'agressivité, est-ce que les couches plus profondes du cerveau sont fonctionnelles? Est-ce qu'il y a des expériences? Le cerveau reptilien, par exemple.
Oui, oh, je connais bien la conception de MacLean, bien sûr. Mon premier gros travail de 120 pages, mais ça remonte à 68, n'est-ce pas, porte le titre « Système limbique et processus de motivation ». N'est-ce pas ? Donc, la notion de système limbique vient de MacLean, n'est-ce pas, essentiellement. Et donc, j'ai moi-même dit qu'il y avait différents niveaux d'intégration d'adaptation au sein du cerveau. Et je fais cette distinction entre satisfaction des besoins biologiques élémentaires, socialisation, interaction sociale et constitution et animation d'une vie intérieure. Donc, trois thèmes qui correspondent grosso modo au cerveau reptilien, au cerveau paléo-mammalien, au cerveau néo-mammalien. Donc, si nous restons, parce que quelqu'un a aussi parlé de synthèse ou a posé une oui, si nous restons au niveau de l'analyse, et le neurobiologiste est condamné au réductionnisme méthodologique. Et il passe souvent, assez facilement, du réductionnisme méthodologique au réductionnisme conceptuel. Bon. Mais dans l'analyse des mécanismes cérébraux, je suis bien obligé de choisir une structure donnée que je vais stimuler, que je vais détruire, où je vais faire des micro-injections locales de tel ou tel agoniste ou antagoniste de tel ou tel neurotransmetteur. Je ne peux pas aborder le fonctionnement cérébral dans sa globalité. Alors, vous allez me dire, vous n'avez qu'à faire un électroencéphalogramme. Oui, mais bon, l'électroencéphalogramme, ça me permettra de voir s'il y a un sommeil à ondes lentes ou du sommeil paradoxal ou si le sujet est éveillé. L'imagerie fonctionnelle du cerveau permet effectivement de montrer, mais au niveau du cortex cérébral, que telle ou telle région, tel ou tel ensemble de régions est activé lorsque on demande au sujet telle ou telle opération mentale, lorsqu'on lui demande, par exemple, parce que j'ai parlé d'épisodes de joie ou d'épisodes de tristesse, eh bien, on dit au sujet, concentrez-vous et pensez à quelque chose, une situation que vous avez vécu déjà plusieurs fois et dans laquelle vous êtes particulièrement joyeux, particulièrement heureux, ou au contraire, pensez à des situations où au contraire, vous êtes triste. Bien, là, on voit effectivement que selon que le sujet, j'allais dire, est habité par la joie ou habité par la tristesse, ce ne sont pas les mêmes régions du cerveau qui sont activées. C'est la raison pour laquelle j'ai souligné le fait que ces deux systèmes dont je parle sont anatomiquement et fonctionnellement distincts, dissociables, même si à certains égards ils se recouvrent. Et à un moment donné, en parlant de l'amygdale, j'ai dit, et je ne peux pas citer dans le détail des expériences qui le montrent clairement, au sein de l'amygdale et également au sein du cortex cingulaire antérieur, se réalise une sorte d'algèbre interne de toutes les connotations affectives positives et négatives qui convergent vers moi. Lorsque je suis face à une situation et que j'ai à prendre position et à agir éventuellement d'une certaine façon, cette situation n'est jamais blanc ou noir. Il y a dans cette situation des éléments qui me conduisent plutôt à aller vers, à interagir avec, et d'autres éléments où je me dis « Pierre, tu ferais peut-être mieux de te méfier et de ne pas y aller. » Bon. Et puis, il faut bien à un moment donné se décider. Et il y a cette algèbre interne avec finalement, si vous voulez, notre cerveau fonctionne en statisticien intuitif. Donc, il fait l'algèbre interne au plan affectif face à une situation donnée de ce qui est positif et de ce qui est négatif et qui me conduit finalement à aller vers, à interagir. Et comme je l'ai dit, et ça c'est intéressant, ça on peut le manipuler à volonté chez l'animal. Oui, mais bon, là, il faudrait maintenant merci. Donner un développement, mais il y en a pour une heure.
Donc. La toute dernière question, le monsieur attendait depuis longtemps en haut.
Professeur, vous avez répondu concernant...
En haut à gauche. Tout en haut.
Ah, tout en haut.
Vous avez répondu concernant les enfants, l'impact de la télévision, donc de la violence à la télévision sur les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une réponse concernant les adultes, notamment On voit des campagnes de pub en ce moment de condamnés à mort dans le couloir de la mort et des photos de ces condamnés à mort dans toutes les stations de métro dans tout Paris. Est-ce que, face à l'adulte maintenant, la violence, ces photos-là précisément, sont-elles susceptibles d'accroître l'agressivité de l'être ou elles sont plutôt susceptibles de le réprimer? Et face à une autre réponse que vous aviez donnée, ces dérives, puisque vous avez parlé de dérives, et notamment que 17 personnes aient voté pour le sensationnel, finalement, le titre le plus sensationnel. Est-ce que le cerveau, que vous connaissez si bien, est-il capable de triompher de ces dérives? Est-il capable d'y mettre un terme ou de les mettre dans un cours un peu plus tolérant?
On répondra déjà à la première question.
Il y a en fait plusieurs questions. Première question, je prends la dernière. Est-ce que le cerveau est capable de triompher? Bon, je répondrai oui, puisque je pense que beaucoup de personnes ici présentes en sont de vivants exemples. Bon, je ne désignerai personne, je n'ai pas le plaisir de vous connaître, mais je pense que beaucoup de personnes ici présentes sont de vivants exemples du fait que le cerveau peut triompher. Mais je dirais à une condition, c'est qu'il y ait précisément ce dialogue avec soi-même, ce travail avec soi-même. Saint Augustin disait « laboro in me ipso ». Je travaille sur moi-même, je peine sur moi-même. Et je suis personnellement toujours persuadé que le développement d'une intériorité est quelque chose de tout à fait essentiel, parce que cette intériorité constitue une sorte d'écran entre la réalité du monde, où c'est pas toujours beau, et soi-même, là où se définissent les attitudes, les comportements qu'on veut avoir. Or, ce que je regrette, c'est que de nos jours, l'air du temps, vous le savez comme moi, on ne nous incite nullement à développer une intériorité. Bien au contraire, on nous incite à vivre à la surface de nous-mêmes. Or, si... Non. Bon, J'ai une petite tendance. Là, je vais encore rappeler une anecdote personnelle. Au début de l'année, je disais à mes étudiants, ni copain, ni gourou. Copain, j'ai passé l'âge, et gourou, j'ai pas la vocation. Et à la fin de l'année, ils venaient me voir et me disaient, monsieur, pas gourou, vous avez une petite tendance à prêcher. Non. Alors, c'est pas du tout pour prêcher. J'ai l'habitude de dire simplement les choses telles que je les pense. Et chacun d'entre vous en fait ce qu'il pense devoir en faire. Donc, et du coup, maintenant, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je parlais donc de l'importance qu'il y a à avoir cette intériorité. Et je dis aussi souvent, bon, c'est une formule, j'allais dire, un peu longue, l'intériorité nous permet de substituer à la promiscuité étouffante de tout ce qui veut s'imposer à nous la proximité enrichissante de ce qui est délibérément choisi. Bon, c'est un peu long, mais je sais bien ce que je veux dire. Bon. Alors, s'il y a une intériorité, eh bien, si vous prenez le temps de réfléchir à ce que signifie une situation pour vous, à ce que signifie pour vous le comportement que vous allez avoir face à cette situation, eh bien, ça change beaucoup de choses. Et ça, malheureusement, on n'apprend pas aux enfants. J'ai beaucoup de mal avec mes petits-enfants et je n'y réussis pas tellement, n'est-ce pas ? On ne leur apprend pas suffisamment à réfléchir vraiment à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, n'est-ce pas ?
Merci. Merci beaucoup, Pierre Carli. Avant que vous partiez, demain...
Je ne sais pas si ça marche encore.
Demain...
Non, j'allais dire, ne me remerciez pas, c'est moi qui dois vous remercier, parce qu'à la fin de l'année, je disais aux étudiants, souvent ils me remerciaient effectivement, alors je leur citais un dicton hébraïque. Mais je ne vais pas le dire en hébreu, je ne parle pas l'hébreu. Ce dicton hébraïque dit, certes, le veau a envie de téter, mais la vache a encore beaucoup plus envie de donner son lait, et la vache, en l'occurrence, c'était moi.